Radio
01.net présente.
Inférieur à 3.
Avec
Fibre Tigre
et Michel Pimpon.
Par Alvin.
Et salut à tous, c'est Alvin et vous écoutez le tout premier numéro d'Inférieur à 3, car ils sont deux, donc Inférieur à 3. Dans Inférieur à 3, il y aura des chroniques, vous allez les découvrir au fur et à mesure de l'émission, du débat bien sûr, mais surtout deux gentlemen du jeu vidéo. J'ai nommé Fibre Tigre et Michel Pimpon. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Alvin.
Allez, je vous propose de passer sans plus tarder à notre première rubrique, la VHS.
La VHS.
On commence donc avec la VHS, un jeu oublié dont nous avons retrouvé la trace au fond d'un tiroir rempli de vieilles cassettes. Et c'est Fibre Tigre qui va nous parler le premier de sa découverte.
Eh bien oui, dans mon grenier, j'ai trouvé un vieux magazine tchèque qui s'appelle Pekné Vipti. Et magazine de jeux vidéo, 1987, il fait une petite review de Sid Meier's Pirates, un grand classique des années 80. Et il se dit, en fait, il parle d'un jeu qui est sur le point de sortir, qui s'appelle Oceanovox, et il propose en fait de reprendre tous les concepts de pirates, mais avec une interface vocale. Ce qui se faisait à l'époque, il y a des petits RTS, milieu des années 90, il y avait des RTS avec commandes vocales, et là ils se sont dit, un jeu de pirates, ça peut se faire complètement à la voix, à la commande, même manuelle. On parlait aussi de réalité virtuelle à l'époque. Et donc là, quelques années en avance, il proposait ça. Et en fait, j'en parle aujourd'hui parce que ça fait une petite résonance avec le jeu qui va sortir dans quelques mois qui s'appelle Assassin's Creed 4 Black Flag.
Ouais, c'est pas facile à dire.
Voilà, exactement. Et là, il va y avoir des grandes séquences vraiment tirées de Sid Meier's Pirates en termes de conflits en mer. Et effectivement, la plupart des séquences peuvent être résumées par des ordres vocaux qui pourraient être effectivement interfacé avec la Kinect.
Par exemple, aller à droite, à gauche toute.
Voilà, exactement. Et donc, on peut se dire que 30 ans plus tard, on a un peu ce rêve tchèque qui se réalise. Voilà.
Grâce à Kinect, grâce à Microsoft.
D'autant que, si je dis pas n'importe quoi, comme c'est Ubisoft à la manœuvre sur Assassin's Creed 4, ouais. Ils ont fait, auparavant, ils avaient fait Aux, qui était un jeu qui se jouait entièrement en commande vocale. Bon, je crois que c'était une catastrophe, ça n'a pas tout à fait bien marché, mais Aux 1 et 2, c'était déjà des jeux à commande vocale, donc ils peuvent capitaliser sur cette expérience et la proposer dans Assassin's Creed 4.
Il me semble que c'était Endwar plutôt, Tom Clancy Endwar, ou Aux, c'était avec les avions.
Eh bien, je me demande s'il n'y avait pas des commandes vocales aussi pour les avions.
Aussi des commandes avec les avions, comme quoi, écoute, pourquoi pas.
Mais tout est possible avec Ubisoft.
Alors, Michel Pimpon, tu n'es pas venu les mains vides.
Pas du tout.
Tu as aussi retrouvé une VHS dans les poubelles d'un convention center, toi, par contre.
Exactement, oui. Ce détail est important, oui. Vous avez très certainement oublié ce jeu en full motion vidéo présenté en catimini lors du salon Imagina de 1992 qui s'appelle Alan Smithy Noir Story. Alors, comment vous en vouloir d'ailleurs d'avoir oublié ce jeu, parce qu'il a été présenté sous forme de prototype et finalement il n'a jamais vu le jour.
Ceci explique cela, effectivement.
Ce prototype essayait de surfer sur la vague des jeux en full motion vidéo comme Night Trap, MacDog, Macri ou Phantasmagoria. Tous ces jeux avec des vrais acteurs et qui nous offraient le futur avec des films interactifs qui s'approchaient des voitures volantes.
Ça a complètement disparu d'ailleurs.
Les voitures volantes ?
Non, les films interactifs.
Oui, oui. Je vois que tu es en train d'essayer de troller en direction.
Vas-y.
Tu es en train de troller en direction de Monsieur Cage. Ça me plaît pas du tout. Donc, Alan Smithy Noir Story, c'était un jeu d'enquête mené par une enquête menée par un détective privé, évidemment bourru et évidemment revenu de tout. Et l'action progressait à travers des phases d'enquête assez classiques, mélangeant interrogatoire des suspects et collecte d'items à trouver, examiner, combiner et utiliser. Seulement l'intérêt de ce jeu-là, ça, c'était autre chose. Comme dans tout bon polar qui se respecte, le héros, le fameux détective privé, il rencontre une femme mystérieuse et vénéneuse. Elle était blonde. Alors, la vraie réponse à David Lynch, c'est qu'elle était blonde au début et brune à la fin. Et cette femme-là, effectivement, le détective va tourner autour d'elle et ça va être le début d'une romance pleine d'embûches et passionnante. Et ce qui fait la spécificité donc de Alan Smithy Noir Story, c'est que plus le jeu progressait et plus l'enquête piétinait, alors que c'était le cœur du jeu, et plus la romance devenait le sujet central de l'intrigue. En d'autres termes, au début du jeu, le joueur mène l'enquête, et la romance est totalement absente, et à la fin du jeu, c'est l'enquête qui est complètement absente, et la romance envahit tout, reprenant même les mécaniques de phase d'enquête, les dialogues et la collecte d'items. Bon, alors, je ne vous cache pas que le jeu s'achevait de manière tragique sur l'impasse totale de l'enquête et l'amour impossible, mais toi-même tu sais que c'est ça qui rend les histoires plus belles.
Alors toi qui es un grand amateur de point and click Fibre Tigre, est-ce que tu penses qu'on est passé à côté d'un chef-d'œuvre ?
Moins point and click que d'histoire d'amour, j'attends encore le jeu vidéo qui va nous présenter une belle histoire d'amour.
Ouais. Ben, effectivement, on peut réfléchir comme ça, une belle histoire d'amour.
Non, c'est bon, on peut arrêter, on peut passer à autre chose parce qu'on n'en trouvera pas.
De l'amour, de l'amour, de l'amour, nous vous en donnons beaucoup, car venu du fond des océans, voici le Game Shark.
Game Shark.
Alors toi, Fibre Tigre, j'ai cru comprendre que tu voulais aborder une question de fond. Les scénarios des jeux vidéo japonais sont-ils débiles ?
Pas du tout troll, hein.
Ouais, non, pas du tout, mais en tout cas, je trouve ça très provoquant et on va peut-être avoir des soucis à cause de toi. Mais j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui te laisse penser ça ?
Eh ben, en fait, c'était il y a pile un an. À la Gamescom 2012, il y a le webzine Computer and Video Games qui, vraiment hyper innocemment, interview Patrick Desilets, qui est directeur créatif de Assassin's Creed 3, qui est sur le point de sortir. Et celui-ci déclare, donc c'est une déclaration en anglais, vraiment un détour d'interview, mais une catastrophe. Il dit, je cite, je vous fais pas l'accent canadien, pensez simplement au nombre de jeux japonais qui sortent et dont l'histoire est incompréhensible. Incompréhensible, c'est un mot gentil, il voulait dire débile. Incompréhensible. Aucun journaliste ne pourrait sérieusement dire « Oh, c'est génial !» Alors, Gear of War sort et tout le monde dit que le scénario est le pire possible. Mais moi, je préfère de loin Gear of War à Bayonetta.
Scandale.
Oui, parce que, en fait, le jeu préféré de Michel Pamand, c'est Bayonetta.
D'accord. Mais effectivement, c'était l'époque où Patrick Desilets, bah, c'est encore pour Ubisoft, hein, il faut le préciser.
Oui. Alors, Patrick Desilets dit quelque chose qui est factuellement vrai. Les scénarios de jeux japonais sont, ils sont japonais, quoi. C'est-à-dire, ils sont un peu faibles. Selon les standards occidentaux, ils abusent beaucoup de l'ellipse et peuvent souvent à des fins constructives. Souvent pour masquer un petit peu la misère du rien qu'il y a, quoi.
Donc ça veut dire qu'en fait, ça fait des années que les JRPG japonais nous en fument.
Ben, en fait, ils nous en fument, c'est une façon de voir, mais le scénario japonais, il marche malgré tout. Comme un samouraï nain et handicapé, il se jette sur les colosses occidentaux, solides de 4000 ans de littérature, et il laisse néanmoins son empreinte. Par exemple, je déteste Final Fantasy VII, ok ? Je sais pas
si... Tu dois pas être le seul, mais...
Voilà. Ben, dans Final Fantasy VII, il y a un certain personnage, je vais pas vous spoiler, qui meurt. Certaines héroïnes qui meurent. L'image est dégueulasse, c'est tout aliasé. Les dialogues sont vraiment rudimentaires. On est limite le CP, quoi. C'est mou, tout est moche.
Mais on est super choqués.
Et ben, la majorité des joueurs vont s'en souvenir et 20 ans plus tard, ils vous en parlent encore. Quoi.
Oui.
Voilà. Ils vous diront même, j'ai pleuré.
Oui, oui, oui.
Dans Assassin's Creed 3 de Patrick Desilets, qui est un grand jeu qui s'est bien vendu, il y a une histoire entre un fils et son père. Ils sont devenus des ennemis idéologiques, ils se traquent, ils passent des pactes d'alliance, ils ont une petite relation de mentorat, ils s'affrontent sous l'influence de la nécessité, on est dans une tragédie grecque, et le fils tue le père, spoiler, de façon inévitable.
Alors ça, c'est pas beau ce que tu viens de faire. Hein.
C'est pas grave. Alors, sur le papier, je vous raconte cette histoire, vous dites ah, « je veux », et en fait, c'est pourri, on s'en fout complètement. D'ailleurs, j'ai même dû vérifier que ce fils tuait bien le père, je m'en souvenais plus vraiment, ouais. Quoi, tu vois. Donc, voilà, on voit qu'il y a une lacune dans le scénario occidental, pourtant bien charpenté.
Bah parce que pourtant, il te noie sous les détails, mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement ?
Ben en fait, les scénarios japonais, on va dire « débiles », entre guillemets, marchent là où les scénarios occidentaux, soi-disant « robustes », se plantent. Parce que la qualité d'une histoire n'est pas due à sa complexité ni à sa simplicité. Harry Potter, qui est un hit reconnu occidental...
Pour le moins, oui.
Pour moi, Fibre Tigre, le vieux, franchement, j'ai rien compris. Enfin, à un moment, il parle dans le délire d'Horcrux ou je sais pas quoi. J'arrivais plus à suivre.
Oui,
c'est ça, exactement. Et pour moi, en fait, la qualité du scénario japonais, ça se tient sur deux points essentiels. D'abord... Le jeu japonais il se construit autour des personnages. Bon, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui de façon robuste aussi en Occident, mais depuis très longtemps, chara-design visuel d'abord, et puis après, on creuse un peu le personnage. Donc le scénario, on s'en fiche. Les créateurs veulent qu'à un moment, il y ait un mec badass, style Snake Plissken, qui se batte sur un mecha en marche avec son pire ennemi. Voilà, faites-moi un scénario autour de ça, moi je veux cette vision. Et donc du coup, on retient cette scène très forte. Et c'est une approche fondamentale dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, on se concentre sur un millier de choses, sa barre de vie, les techniques, le gameplay, les confrontations, et on voit son personnage. Donc d'où l'importance du chara-design. À la rigueur, ses objectifs et ses idéaux qui le définissent permettent de le rendre riche, mais on s'en fout. On veut qu'il réponde au doigt et à l'œil et pondre sa petite réplique cool de temps en temps. Ce qui fait que Gear of War, par exemple, est une réussite parce qu'elle est réplique cool, au même titre que Bayonetta.
Alors donc ça veut dire que ça tient juste au personnage. Moi, je trouve ça un peu court quand même.
Il faut voir aussi que les Japonais, ils racontent des histoires, donc, on va dire entre guillemets débiles, mais avec une sincérité, avec une intensité qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire ils y croient à fond. Deux frères qui jouent la possession d'un royaume sur un lancer de pièces. Mais waouh, on dirait que le monde entier joue sa vie autour de cet instant. Les éléments incompréhensibles s'accumulent avec intensité. Les personnages ont des mines meurtries et certains se mettent à chialer pour des raisons débiles, mais on a pitié d'eux. Enfin, les combats finaux sont toujours extrêmes, passant par des morts successives des personnages, des ultimes sacrifices, l'invocation du joueur, parfois des plans sur la planète Terre. Tout est démesuré, le narrateur y croit, on cherche pas à expliquer la vraisemblance scientifique, on s'en fout. On vous demande d'admettre sans retenue une histoire qui n'a aucune retenue et donc qui peut sembler parfois idiote, mais on y est à fond.
Tout explose à la fin et c'est formidable. Voilà, et on est pris dedans.
C'est le jeu dans le jeu et on a vraiment plaisir à se plonger dedans.
Alors Michel Pimpon, hormis les insultes sur Bayonetta.
Sur Bayonetta, moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense qu'il faudra une émission à part. Je suis assez d'accord avec Fibre Tigre quand il met l'accent sur le personnage, parce que effectivement, c'est la chose qu'on voit le plus, la chose qu'on voit en premier quand on joue un jeu. Enfin, la plupart des jeux sont des TPS ou s'ils ne sont pas des jeux de shoot, en tout cas, on voit tout à la troisième personne. Et ça, c'est effectivement le truc le plus important, c'est qu'on a besoin pour s'identifier ou pour avancer, ne serait-ce que pour avancer, on a besoin de mettre des sentiments ou mettre un peu de son propre vécu dans une coque plus ou moins vide. Donc là, je pourrais avoir un contre-exemple assez intéressant ou au contraire une passerelle. C'est les deux personnages muets qui sont très inspirés du Link de Zelda, comme était muet Link dans les premières versions, enfin entre les deux cris. Personne veut me faire un cri de Link pour...
Ah !
Ouais, il y a...
Ah !
Voilà, comme ça. Les deux exemples, c'est cela. Donc c'est le personnage principal qui doit être à peine nommé ou qui n'est pas nommé dans GTA 3. Le personnage principal est muet. Et Jack de Jack and Daxter. Et ces deux personnages-là sont muets, et pour une raison qui, à mon avis...
Vous ne citez même pas Half-Life.
J'ai préféré...
Moi, j'aurais cité Fable, personnellement. Mais...
J'ai pas cité Half-Life pour des raisons que vous comprendrez un peu plus tard, je crois, dans le déroulé de cette émission. Mais je voulais revenir sur ces deux personnages-là, puisque c'est des personnages qui sont muets sur des consoles qui sont relativement récentes. C'était la génération donc, des 128 bits. Mais le fait que ce soit des personnages muets, c'est précisément d'en faire une coquille presque vide, à part leur aspect. Et c'est alors que tous les autres jeux étaient extrêmement bavards, c'était quand même l'occasion pour le joueur de mettre un peu de son vécu et de ses sentiments.
Est-ce que factuellement, vous êtes d'accord pour dire que les scénarios japonais sont en général débiles ?
Non, je dirais qu'ils sont hyperboliques. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous, monsieur, en face
de
moi...
Tu pourrais faire de la politique.
Pas du tout. C'est-à-dire que vous, monsieur, vous me dites que c'est débile. Moi, je dis que c'est hyperbolique. Parce que vous, vous émettez un jugement de valeur, alors que moi, vous dites factuellement. Très bien, factuellement. Restons factuels. Restons objectifs. Parlons de dénotation. Parlons de la dénotation. Et donc, au lieu de dire que les scénarios sont débiles, disons que les scénarios sont particulièrement excessifs. Ou au contraire, incroyablement simple.
Fibre Tigre, qu'est-ce que tu réponds à ça ?
C'est vrai que dire de base qu'un scénario est débile, ça n'a pas trop de... Comment dire ? C'est très subjectif comme notion. Donc en fait, je rebondissais un petit peu là-dessus, surtout pour parler de la sincérité des scénarios japonais. Maintenant, il y a une petite remarque qu'on peut faire factuelle pour le coup, qui est qu'il y a beaucoup plus de FPS occidentaux. Et pourquoi ? Parce que dans le FPS, on ne voit pas son personnage, et le japonais a besoin de matérialiser, on va dire, il prend du plaisir par la matérialisation des personnages, parce que pour lui, l'intérêt de l'histoire est autour de ça. Après, L'histoire, c'est un prétexte.
Ça les frustre de ne pas voir leur personnage. Écoutez, le débat est ouvert.
Je les comprends. J'ai besoin de voir mon personnage.
On voit pas Gordon Freeman, et franchement...
Mais on voit Bayonetta, on voit qu'elle, c'est merveilleux.
Ouais, mais tu vois, les Japonais, souvent, ils disent... enfin, ils sont dans l'ellipse ou dans le non-dit, tu vois. Il y a le non-meuble dans la maison. Et Gordon Freeman, c'est un peu le non-Jésus. C'est Jésus qui vient sauver la Terre, mais il est pas là, en fait.
Je suis d'accord. Donc, voilà.
Alors, je vais vous poser une question qui peut sembler un peu... qui va être de l'huile sur le feu, j'en ai peur. Les éditeurs de personnages, pour des personnages qu'on ne voit pas typiquement dans les Elder Scrolls, qu'est-ce que ça pose comme problème ?
Déjà, il y a énormément de gens qui ont joué à Skyrim et qui ont enfin joué à un Elder Scroll parce qu'on pourrait avoir, il y a une vision TPS.
Mmh. Ah mais c'est faux ça monsieur, parce que dans Morrowind, vous aviez également une vision TPS.
Oui mais, enfin, disons que dans Skyrim, il y a une vision TPS jouable, voilà.
C'est ouais. Plutôt ça.
Oui, bon d'accord, touché.
Allez, on va laisser le débat là et on va passer au courrier des haters.
Le courrier des haters,
Stelle d'ANSA, nous nous sommes infiltrés dans les boîtes mail des plus grands éditeurs de ce monde pour vous révéler les échanges les plus vifs entre joueurs et créateurs. Et on commence avec un premier courrier signé Yaxbro. Il est très remonté contre une grosse firme spécialisée dans les jeux sur PC. Yaxbro, à toi la parole.
Monsieur Game Newell. Nicolas Hulot pleure en disant que les glaces fondent et que les océans montent, mais il n'en est rien, c'est vous, monsieur Game Newell, par votre poids qui enfoncez les continents dans le sol. Fibre Tigre dit, c'est vraiment s'attaquer au physique, là, hein, mais bon. Alors, Yaxbro dit ensuite sur son mail, j'accuse, tel Émile Zola, Game Newell de ne pas nous donner la seule chose que nous attendons, Half-Life 3.
Il a pas tort.
Game Newell... ne cesse de nous embrouiller la tête avec des soldes de jeux pas chers et en nous donnant tellement de jeux qu'on oublie ce pourquoi on avait allumé Steam. Game Newell, avez-vous mangé Half-Life 3 ?
Non mais, ouais, scandaleux quand même, hein, Yaxbro. Quand même.
En tout cas, Game Newell n'est pas très ponctuel, mais c'est quelqu'un de très poli. La preuve, voici sa réponse.
C'est vrai qu'il n'est pas très ponctuel. Cher Yaxbro, merci pour votre petit mot. Vous demandez où se trouve Half-Life 3 et nous vous remercions de votre intérêt pour Steam. Enfin, le contenu qu'on trouve dans Steam. Enfin, le truc que vous achetez, là, ah, je l'ai sur le bout de la langue. Les jeux, voilà, c'est ça, les jeux. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de partager les informations concernant la sortie de Steam dans Half-Life 3, à moins que ce soit l'inverse. Concernant vos allusions à mon surpoids, votre IP est 82-452-1456. Vous habitez à Lens, en France. Votre fuseau horaire est GMT+1. Et votre carte bancaire numéro 78-45-24-53-77 arrive à expiration fin septembre 2014.
Il nous manque les trois numéros derrière.
Oui, le cryptogramme, c'est vrai, exact. C'est vrai qu'il manque le cryptogramme. Donc en fait, c'est du flan, en fait, Gabe. Donc, Gabe Newell termine en disant « Continuez d'acheter des chapeaux dans Steam, signé Gabi. »
Oh, c'est mignon, quelle classe ce Gabe. Et en plus, il est bien informé, je trouve. Les haters sont en tout cas bien énervés cet été. Voici un deuxième courrier adressé à Microsoft cette fois-ci.
Alors oui, c'est une lettre adressée à Microsoft par Kenshin78. Donc je lis, hein, c'est... Cher Microsoft, vous avez décidé d'entrer sur le marché des consoles avec un pavé noir, moche et vert. Pourquoi pas ? Vous avez persisté et signé avec un pavé gris, moche et vert et qui marchait pas. Admettons. Cette année, vous avez annoncé un nouveau pavé noir brillant, moche tout court. Mais vous avez réussi à vous mettre tout le monde à dos avec vos histoires de jeux d'occasion et de connexions obligatoires. Bref. Vu d'ici, Microsoft, c'est grosse fatigue à Redmond. Dans ces conditions, vous serez bien aimable de nous épargner tous vos Viva Pignata présents et à venir, toutes ces licences éclopées issues d'un cerveau malade qui a très certainement mélangé Mirecouleur, Mojito et Beaujolais Nouveau, celui qui a un petit goût de banane. Mais comme je suis un chic type, je vais vous donner un tuyau. Relancez le développement de BC, le jeu de dinosaures open world de Molineux. Les joueurs rêvent de Ribs d'Iguanodon, ce fameux dinosaure Facebook au pouce surdéveloppé. Les joueurs rêvent de taillage de silex, de grandes battues pour dénicher un ankylosaure, ce proto-Pokémon avec une cuirasse ultra badass et une queue en gourdin. Les joueurs rêvent de volcans, de rixes entre tribus, de grands jamborees jurassiques mêlant dinos, grandes aires, glacières, âges de pierre et néolithiques, quitte à faire grimacer la totalité des profs d'histoire géo, à l'exception notable des créationnistes. Si vous faites ça, Microsoft, tout, et je dis bien tout, sera pardonné.
Fidèle à sa réputation, le service client Xbox outsourcé en Inde n'a pas manqué de répondre prestement à notre ami Kenshin.
Je vous fais pas l'accent indien. Cher client, nous prenons en compte vos suggestions de design en dépit de leur caractère peu constructif. Nous aimerions sincèrement plaire à l'ensemble de nos clients et nos études en matière de design sont le résultat de grandes études marketing couvrant l'ensemble de la population de certains villages du Texas à certaines heures de la nuit. Vous semblez ne pas apprécier notre licence. Viva Pignata, et nous le regrettons également, mais réjouissez-vous. Nous avons le plaisir de vous indiquer que Viva Pignata va désormais se décliner en plusieurs produits ludiques immersifs, et l'un d'entre eux forcément conviendra à votre goût. Ainsi, dans Forza Pignata, nous avons développé un concept inédit où des petits personnages mascottes font des courses de cartes. Un DLC pourra même vous faire permettre de jouer en multijoueur.
Folie.
Dans Halo Pignata, vous incarnez une pignata génétiquement supérieure destinée à sauver la galaxie. Enfin, dans Call of Pignata, vous pourrez mener des conflits armés de type guerre moderne dans une ambiance tendue, excitante et pleine de bonbons. Concernant BC, nous avons le plaisir de vous annoncer que le projet n'a jamais été abandonné, mais reste au stade de sa conception. Le designer agréé Microsoft Games Molineux est passé de la gestion dinosaure à une réflexion contemporaine sur le soi dino, puis a proposé dans un party game survival où tout le monde devait avoir une interface en mousse. Le projet avance, nous espérons vous présenter des résultats concrets à l'E3 2020. Ludiquement vôtre, Microsoft.
Rendez-vous est pris donc. Écoutez, sans plus attendre, moi j'empoigne ma lampe à huile, je la frotte avec frénésie pour en faire sortir le Game Genie.
Waouh.
Michel Pimpin, nous sommes maintenant à quelques jours de la rentrée ludique et des dizaines de blockbusters Ubisoft vont tomber sur le coin de nos consoles. Et pourtant, il y a quelque chose qu'on est sûr de pas vraiment y trouver, de l'humour.
C'est exact. L'humour est une chose trop sérieuse, trop grave et pour tout dire trop fragile pour qu'on la traite par-dessus la jambe dans une posture qui parlera tout autant aux amoureux de Wii Fit qu'aux experts de YouPorn. Souvent disséqué, ardemment souhaité, parfois même invoqué comme un dieu païen auquel on aurait offert en libation des montagnes de carambars, des dizaines de millions de téraoctets de vidéos rigolotes sur YouTube, et cumulativement plusieurs milliards de décibels de ha-ha, l'humour, ami auditeur, ça se respecte. Ça se respecte comme un rappeur de Clichy, ça se respecte comme Vito Corleone, ça se respecte comme une belle boule parfaite et gironde de mozzarella. Mais avant d'aller plus loin dans cette chronique, démêlons s'il vous plaît l'humour de la fantasy. En effet, dans l'univers impitoyable du jeu vidéo, si les flingues et les fesses font vendre les galettes par camionnette, le recours à la fantasy est assez monnaie courante. Pour suppléer ici un game design lacunaire, je pense à Saints Row, là un synopsis convenu, je pense à Borderlands, ou encore un personnage creux, je pense à Paige, le sidekick de Beyond Good and Evil. La fantasy, voyez-vous, c'est une skin de LOL pour un contenu préexistant. L'humour est la chose la plus délicate à définir, ce qui en soi est déjà rigolo.
D'accord, mais ça ne nous dit pas comment Ubisoft se comporte vis-à-vis du MDR.
D'accord, revenons à ce moment-là à l'humour chez Ubisoft. Tout commence avec un constat. L'humour est dramatiquement absent des jeux de la firme de Montreuil. Alors certes, il y a bien ça et là quelques oasis de LOL, des coups pour rien plutôt que des coups de maître, et il faut quand même saluer les timides et maladroits Blood Dragon ou encore Mighty Quest for Epic Loot. L'impression dominante qui renvoie Ubisoft, c'est que leur petite entreprise est incroyablement sérieuse. Ou, pour le dire autrement, l'industrie du fun, c'est serious business. Tant et si bien que les méchantes langues, du nombre desquelles je m'exclus d'emblée, sont amenées à se demander si Ubisoft ne cherche pas à coloniser l'espace du serious game, tous ces point and click absolument fascinants sur le désert du Sahara, ces plateformeurs de l'extrême qui offrent à penser sur la vie quotidienne des facteurs, ou encore ces shoot'em up sur les MST, dans lesquels le boss de fin, c'est le virus du sida.
Ah, carrément.
Concernant les facteurs, Postal, c'est assez drôle.
C'est vrai.
Tu penses certainement à cette feature incroyable où on pouvait uriner sur ses adversaires.
Mais surtout que Postal n'a rien à voir avec facteur, je crois, donc c'est pour une blague dans la blague.
Mais je crois qu'il y a des MST dans Postal, il me semble. Tout retombe sur ses pieds, finalement.
Oui, tout à fait, c'est exact. Je vous propose de prendre quelques exemples de grandes productions d'Ubisoft des années 2000, histoire de montrer que je dis pas non plus, je sors pas ça de mon chapeau,
allez.
Que j'ai acheté sur Steam. Prince of Persia, par exemple, Les Sables du Temps. Beaucoup de charme, indéniable, mais alors c'est sérieux en diable. Je vous conseille de passer rapidement sur Beyond Good and Evil, parce que Jade, Pej et les Rasta de Mama Go Service, c'est quand même pas brillant. Et Rayman 3.
C'était drôle,
mais alors écoutez, vous aviez 14 ans.
C'était marrant.
Vous aviez 14 ans et ne niez pas.
C'est la bonne vérité, malheureusement.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a bien un exemple très, très précis, c'est ça le problème, c'est que c'est des exemples précis. Sur Assassin's Creed, dans Assassin's Creed 2, par exemple, Mario, l'oncle d'Ezio Auditore, balance un fameux It's a me, Mario.
C'est le seul Easter egg de la licence, je crois.
Mais c'est ça, c'est ça qui est quand même assez...
C'est la tristesse un petit peu quand même.
Bah, ce It's a Me Mario, c'est quand même très drôle, sauf que ce clin d'œil-là, il n'est pas vraiment assumé. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, Ubisoft, on ne fait pas le malin quand on a 215 informations à retenir, qu'on a 3 intrigues avec 2 strates temporelles, 12 combinaisons de touches, 3 nouvelles maps.
C'est pas facile.
Non, on ne fait pas le malin comme ça. Il faut savoir ménager des pauses, c'est le principe du tantrisme. Voilà, j'ai lu ça sur Wikipédia.
Alors, va pour le tantrisme, mais j'ai l'impression que tu oublies un truc, Michel, une licence.
Oh, je vous vois venir d'ici, Alvin. Je vous vois venir d'ici et je vous entends parce que j'ai mis entrée à la NSA. Comment? Mais alors, quid des lapins crétins, Pimpant Michel?
Bah, exactement.
Non, voilà, je vous entends.
Déjà, on peut dire, c'est pas drôle.
Bah, écoutez, les lapins crétins, parlons-en. Voilà, lapins crétins, c'était une bonne surprise et une bouffée d'air frais dans le catalogue au milieu des années 2000. Ok. Très bien. Mais alors, à la suite de ce succès, la déclinaison systématique, pour ne pas dire totalitaire, de cette franchise suggère que si les décideurs de chez Ubisoft ont de l'humour, c'est de l'humour à répétition. Mais comme le fusil, du même nom.
J'ai envie de te dire, il y a quand même un jeu à boire à lapin crétin dans vos Fnac, ce genre de choses. Ils sont allés loin sur l'humour crétin lapin.
Bah oui, ils sont allés loin tout court, je dirais.
J'en ai peur.
Et bon, puisqu'on en est au chapitre des armes à feu et du fusil à répétition, passons aux productions dites actions d'Ubisoft, les grandes réussites de ces années frimes, des trucs gros comme des super tankers développés aux quatre coins du monde. Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six et plus récemment encore Watch Dogs. Watch Dogs qui pourrait se résumer par un smiley triste. Parce qu'on ne rigole pas.
Je trouve, j'irais pire, un smiley neutre.
Un smile.
Pas
c'est Fibre Tigre qui nous dit ça.
Deux points slash.
C'est Fibre Tigre qui nous
bon,
dit ça.
Bon, ceci étant, il n'est pas sorti. Donc peut-être qu'on va se bidonner. Hein.
Bah, peut-être qu'effectivement, il y aura. Bah, peut-être qu'ils ont fait un truc, voilà, un featuring avec les gars de Volition qui sont sur Saints Row 4.
C'est clair.
Et ça, ce serait très drôle, effectivement. Mais voilà, tous ces jeux-là, c'est des jeux qui s'escriment avec toute la pugnacité d'un adolescent rageux à nous dire que le monde va mal, que les gens sont méchants et que nous sommes surveillés. Ouh. Voilà, c'est des jeux malins, des jeux beaux, des jeux profonds, mais alors dépourvus d'humour.
Alors, comment survivre à ça, Michel ?
Alors, moi, j'ai un conseil pour mes amis des ondes. Méfiez-vous toujours de la manière dont une société parle d'elle-même. Il suffit de voir la présence répétée des youtubeurs sponsorisés par Ubisoft sur le show-floor de l'E3, ou voir la totalité des Harlem Shake. Non, pas voir la totalité, vous voyez-en quelques-uns, mais quelques Harlem Shake que tous les studios de Ubisoft ont fait.
Tous.
Ils y sont tous passés. Tu vois, vraiment, je crois que c'était contractuel. Dans ton contrat, tu étais obligé de faire
un Harlem Shake. C'est triste quand même, ça.
Voilà. Et quand tu vois ça, tu te dis qu'une une société qui cherche à communiquer par le LOL, tout en évacuant toute forme d'humour véritable de ses productions, tu sens que c'est un aveu de faiblesse. En d'autres termes, on pourrait gloser en disant « Messieurs, nous ne sommes pas rigolos, nous sous-traitons la rigolade, et en plus, vous n'y verrez que du feu, continuez d'acheter nos jeux. » Voilà, ça c'est un signal envoyé aux joueurs, et je trouve ça quand même triste. Et je trouve ça d'autant plus triste que je suis convaincu que des dizaines et des centaines de personnes chez Ubisoft ont de l'humour à revendre, de l'humour à offrir, à partager, que ce soit dans la communication interne, le marketing, les relations presse, ou même, qui sait, rêvons un peu dans un jeu vidéo.
Alors Fibotique, qu'en penses-tu ? Est-ce que tu as envie de rire avec Ubisoft autrement qu'à cause de l'accent anglais de Yves Guillemot ?
Alors, j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est que ce qu'on reproche en fait à Ubisoft, c'est pas qu'il y ait de l'humour, parce que l'humour à tout prix, on n'en veut pas forcément, mais c'est vrai qu'ils sont trop sérieux. Et quand on prend, sans aller dans Saints Row 3, les GTA, notamment GTA San Andreas, ils ne se prenaient pas vraiment au sérieux. C'était une histoire dure avec de la drogue, tout ça, mais c'était drôle. On pouvait faire des choses un petit peu délirantes, facultatives, et ça donnait la soupape de sécurité qui nous faisait apprécier le jeu. Donc ça, c'était ma remarque.
Tout à fait d'accord.
Et donc, effectivement, moi, je pense que dans certains jeux Ubisoft, ce serait bien qu'à un moment, il se décoince, quoi, tu vois. Voilà. Maintenant, la question que je voudrais poser à Michel, c'est le patron de Ubisoft, il écoute Affaire à 3, il est fan, il dit je vous prends au mot, mais est-ce que Assassin's Creed serait meilleur s'il était drôle?
Alors, si M. Guillemot nous écoute, déjà, on l'embrassera. Je lui dirais que ce Harlem Shake était quand même assez mal fait. Et surtout, c'était grossier le tour de passe-passe, puisqu'il est censé avoir un casque de moto à la place de Yves Guillemot. Personne n'est dupe, M. Guillemot. Personne n'est dupe, ce n'était pas vous. C'était une doublure. Et comment je sais ça? Puisque tout se sait grâce au réseau et Watch Dogs, car c'est sérieux. Pour revenir à la question, votre question, Fibre Tigre, je dirais que... on n'a pas besoin à tout prix d'humour dans Assassin's Creed, je suis assez d'accord avec vous. En revanche, ce qui est encore plus triste, c'est de se donner un mal de chien pour essayer de faire de l'humour dans Assassin's Creed. C'est-à-dire que si ça ne vient pas de manière fluide et naturelle, il faut le laisser de côté.
Est-ce qu'à travers les jeux vidéo Ubisoft, on peut se dire qu'il n'y a pas une super ambiance chez Ubisoft?
Ça, je me garderais bien d'avoir un commentaire ou un mot à ce sujet-là. Parce que
par exemple, Rockstar, on pourrait croire que c'est délirant, mais on a appris que l'ambiance chez Rockstar n'était pas drôle du tout.
Non, bien sûr que non. Voilà. Bah, ça reste un business, hein, donc... Donc, je pense que l'industrie donne une image. C'est comme les industries du divertissement.
Amuser les gens, c'est sérieux quand même, quoi.
C'est sérieux ce business d'amuser les gens, quoi.
Oui, en fait, peut-être que tout simplement Ubisoft, ils veulent avoir un contrôle, une maîtrise totale de leurs produits. Donc, il n'y a pas de la spontanéité de l'humour dedans, quoi.
Ben ouais, c'est peut-être ça, effectivement. C'est difficile d'être spontané dans des super productions AAA qui sont étalées sur plusieurs années qui sont développées aux quatre coins du monde, quoi.
Est-ce que c'est pas un problème de prise de risque? Est-ce qu'on a peur de ne pas pouvoir faire rire tout le monde dans tous les pays avec les mêmes vannes?
Alors, j'ai un contre-exemple intéressant et triste. Moi, je déteste le jeu de mots. Et Ankama, Wakfu, c'est... un jeu de mots par ligne de code, quoi. C'est un jeu de mots. Ouais. Tous les personnages, c'est des jeux de mots, tout ça, etc. Et là, on est dans l'exemple inverse, c'est-à-dire le délire à tout prix, et c'est pas très drôle non plus. En gros, il faut un peu de tout, quoi.
Je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, je reproche pas à Ubisoft de faire des jeux sérieux comme Watch Dogs. C'est pas ça le problème. C'est que j'ai l'impression qu'on mange du Watch Dogs depuis 10 ans.
Il dit ça, et il va jouer à Watch Dogs, il va dire génial, j'adore.
Mais je vais trouver ça très cool. Je vais trouver ça très cool, mais incroyablement sérieux. Et il y a une manière d'être sérieux, c'est la posture sérieuse aussi qui me pose un peu problème.
Est-ce que c'est pas le prix de Watch Dogs qui doit te faire rire normalement?
Mais est-ce que Watch Dogs, qui traite quand même des bases de données, sujet sensible à l'actualité, et en plus des bases de données, quand on voit dans la démo, genre bases de données de personnes atteintes du sida, bases de données de paramilitaires, tout ça, etc., faire de l'humour à côté.
Et c'est un autre problème sur lequel on reviendra, je pense, dans plusieurs autres émissions. La fin approche, alors fonçons, dernière chance, dernier tour, c'est le Final Lap.
Final Lap!
Final Lap, c'est la question surprise de la fin. Fibre Tigre et Michel Pimpon la découvrent en même temps que vous, et la voici. Après Bretigny et Saint-Jacques de Compostelle, le train de l'hype GTA V peut-il lui aussi dérailler? Internet s'arrête à chaque sortie d'image ou de trailer, la presse est dithyrambique et retient son souffle, Take-Two affiche une confiance insolente. GTA V jeu de l'année, les dés sont-ils déjà jetés pour vous? Je sais pas qui veut se lancer en premier.
Il y a un énorme truc qui me choque énormément dans GTA V, c'est que la musique va être... extra-digétique, c'est le mot, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y aura plus... jusqu'à présent, à part le générique d'intro, le générique de fin, la musique, c'était dans la voiture, quoi, et c'est tout. Et là, il va y avoir de la musique d'ambiance. Et...
C'est sûr, ça?
Ouais, moi, ça me...
C'est impardonnable, ça, pour toi?
Moi, ça me fait peur. Hein.
Bah, disons que ça casse... ça casse le quatrième mur, quoi, mais à part ça...
Maintenant, après, rouler à côté d'une plage... de Los Angeles, avec de la bonne musique, ça n'a pas de prix, quoi.
Et mais ça, est-ce que tu penses qu'il ne peut pas y avoir une erreur de parcours? GTA V, ce n'est pas trop beau pour y croire? On est tous en train de se dire, ça va être...
Si le framerate suit, c'est bon.
Je pense qu'il faut prendre les choses... Enfin, voilà, je vais parler comme un footballeur, si ça ne vous dérange pas.
Ça marche.
Il faut prendre les matchs les uns à la suite des autres. Voilà. Il faut prendre les matchs les uns à la suite des autres.
Depuis le début de l'émission, Michel refuse de répondre aux questions.
Attendez. Les matchs les uns à la suite des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Vous allez me poser la question, monsieur. Vous allez me poser la question. Je vais vous répondre. Les uns à la suite des autres, ça veut dire que... savoir si ça va être le jeu de l'année, bien malin qui pourrait le dire...
ça s'achète day one et tu réfléchis pas. C'est un GTA, quoi, c'est tout. Il n'y a pas à chier.
Mais attends, ils sont pas plantés. C'est là où je suis pas d'accord. C'est qu'il faut être quand même cohérent. Acheter le jeu le jour de la sortie, ça ne fait pas de ça le jeu de l'année. Ça veut dire que les attentes sont très importantes et que tu as très envie d'y jouer. Ce n'est pas la même chose que le jeu de l'année. Le jeu de l'année, c'est une fois que tu as joué et que tu l'as retourné dans tous les sens, tu y as rejoué une ou deux fois et en fait là tu te dis franchement ce jeu il est fantastique, ça c'est le jeu de l'année.
J'aime pas trop le thème violent de GTA, mais GTA c'est le Usain Bolt des jeux vidéo, c'est-à-dire, il est hors compétition, il est là et il faut regarder le meilleur jeu à côté de GTA. Mais...
on peut précommander les yeux fermés pour toi.
Il justifie l'achat de la console à mon avis.
Est-ce qu'on peut faire confiance comme ça à une hype aveuglément? C'est quand même super dangereux.
Ils vous ont sorti Red Dead Redemption, GTA 4 et même GTA San Andreas, je veux dire, c'est un parcours en or.
Oui, mais non. Parce qu'il y a Max Payne 3 au milieu.
C'est vrai.
Qui a été une boulette, une relative boulette, petit jeu de mots.
À ce point-là, oh, 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 oui, c'est vrai.
Voilà. parce que je sais que vous aimez les jeux de mots, monsieur.
Non, je déteste.
Voilà, donc c'est le moment de la boulette pour eux. C'était quand même un cran en dessous. Ils ont pris un risque avec Ellie Noir, qui était un beau risque intéressant. Parce qu'à mon avis, narrativement, ou en matière d'ambiance et en matière de techno, c'était super intéressant. Mmh. Même si c'était un peu en dents de scie en matière d'action ou en matière de gameplay pur. Et puis les gens se plaignaient du fait que bah voilà, lui je l'ai accusé, bah finalement en fait c'est lui qui le...
Moi je dis objection,
oui.
Pourquoi? Parce que Rockstar, il fait du GTA qui est un genre qui maîtrise très bien, ils font le meilleur GTA-like possible, ce qui est GTA. Et quand ils font Alien Noir et quand ils font Max Payne, ils prennent deux point and click, ils le font version moderne et ils le poussent dans les derniers tranchements et on a un jeu qui est techniquement incroyable, on a une Los Angeles qui est un peu chiante mais qui est parfaite et on a le point and click moderne et j'espère qu'il y aura des futurs Alien Noir pour perfectionner les gens. Et quand ils prennent Max Payne, qu'est-ce qu'ils allaient faire? S'ils faisaient un GTA avec Max Payne, ils allaient prendre tous les fans de Max Payne qui allaient dire vous avez fait n'importe quoi. Et ils ont pris le système de Max Payne, ils l'ont poussé dans ces derniers tranchements, mais malheureusement c'est un système qui est un peu vieillot.
C'est pas une question de gameplay, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'ils ont fait une campagne de, je sais pas moi, 18 heures, c'est ridicule, le jeu est beaucoup trop long parce qu'il a été beaucoup trop longtemps en production. Donc on a des niveaux, mais on dirait les adieux de Sheila. C'est le truc, il y a eu 15 adieux à la scène, quoi. Adieu mon public, oh non finalement je reviens.
Alors, tu t'en sors pas quoi. Quand on a des jeux, des shooters ou de la qualité Rockstar, on se plaint pas de la durée, hein. C'est-à-dire, je suis désolé, c'est comme moi je fais chez Gagnère mais le repas était un petit peu trop copieux. Non, je veux dire, t'en profites, c'est une fois dans ta vie, t'auras un Max Payne 3.
Ouais, mais à ce moment-là, c'était peut-être pas la peine d'en faire autant, quoi, d'en faire des grosses tartines. En revanche, je remarque que vous avez un peu dévié de la question de notre hôte ici présent, et que savoir si le hype train allait dérailler concernant GTA V, je pense pas. Non. Maintenant, parce que tout est verrouillé, tout est super, enfin tout est très professionnel chez eux.
Mais est-ce qu'on fait pas un peu trop? Est-ce que vraiment
oui.
vous trouvez pas sur
perso,
Twitter
oui.
Est-ce que vous n'êtes pas saoulé sur Twitter de voir une sortie de trailer et voir
oui.
Internet qui s'arrête et tout le monde qui dit j'arrête de bosser pendant 5 minutes, mon employeur pourrait me virer, mais je regarderai ce trailer de GTA.
Moi, je regarde pas les trailers. Ça sert à rien. Genre,
je les regarde un peu en décalé.
Ce matin, je regardais avec émotion des photos de GTA San Andreas. Et,
mais voilà,
et
mais
à
ça,
l'époque, il était superbe.
On y revient toujours, mais à mon avis, tu vois aussi, c'est que sur GTA San Andreas, il y a quelque chose, il y a un je ne sais quoi qui fonctionne vraiment bien, que tout le monde espère retrouver dans le GTA V. Mais moi, à titre perso, j'étais un peu embêté quand on a appris que ce serait heureux en Californie, enfin heureux à San Andreas.
Il faut voir que GTA, c'est la caricature. À un moment donné d'une période. Mm. Et GTA San Andreas, à mon avis, savourait bien en 2005. Et là, en ce moment, on devrait jouer en fait à GTA 4 parce qu'il parle de problèmes comme la discrimination à l'embauche, je sais pas, l'immigration, comme le rêve américain, surtout en période de crise. Parce que voir un mec qui galère en 2008 alors que on n'était pas encore dans la crise immobilière, tout ça, etc.
Ça
commence en 2009. C'est une chose, mais aujourd'hui, si tu joues à GTA 4, tu peux vraiment le savourer avec son contexte satirique fort. Et GTA 5, il va être très bon, il va être très très bon pendant 5 ans, comme tous les GTA, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui sont assez stéréotypiques du jeu vidéo comme on le fait aujourd'hui? On voit les trois personnages, ça sent la coop, tout ça. Est-ce que ça part un peu tuer GTA, ça, pour vous?
Il y avait trois personnages finalement et trois timelines dans storyline dans GTA 4. Maintenant, par exemple, dans GTA 4, c'était bien foutu parce que quand on jouait avec le biker, il y avait les...
Ah, tu parlais de DLC, là, donc.
Ouais, les contrastes sont... La palette graphique est différente, donc on est dans un état d'esprit différent. Est-ce qu'il y aura ce travail artistique? Je sais pas, voilà.
Monsieur le Pimpon.
Moi, je préfère juger sur pièce, en fait. C'est là que je reconnais que l'industrie du jeu vidéo a besoin de créer le désir, comme d'autres industries, mais on a besoin de montrer, on a besoin, j'ai l'impression que je parle du porno, c'est bizarre, on a besoin de montrer des choses, pas trop en montrer, et donner
envie de le faire.
Pour avoir envie de le faire, l'achat, voilà. Et le premier jour. Et de ce point de vue-là, ils font leur job. Maintenant, j'ai vraiment envie de juger sur pièce ce jeu-là, quoi. Voilà. Surtout que j'ai quand même l'impression que depuis 2 ou 3 ans, ça s'accélère auprès des gros, gros éditeurs. C'était cette espèce de... Il y a presque une bulle d'inflation au niveau des reviews. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jeux, « Ah, mon Dieu, c'est génial, c'est un 9 sur 10, métacritique de folie, confetti dans tous les sens, et on écoute Samba de Janeiro. » Mais et 6 mois après, plus personne ne parle du jeu. Mmh. Un exemple pour moi, même si je suis un peu mauvaise langue, c'est Bioshock Infinite. Je dirais que maintenant, la hype, elle est terminée, quoi.
On va en rester là pour ce débat. Merci beaucoup, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Vous l'avez compris, il va être l'heure pour nous de vous nous quitter. Tout d'abord, merci à vous d'avoir écouté ce premier numéro d'Inférieur à 3, à Inks à la production, à Speak à la réalisation, à nos deux chroniqueurs que vous retrouvez sur Twitter, @fibretigre, @michel_pimpant. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur radio01.net. Vous n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de laisser le dernier mot à nos chroniqueurs. Alors, un mot chacun.
Tubulure.
Merci, au revoir.
On se retrouve très vite sur radio01.net et sur Synops Live pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.